Salut, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on vous parle de diversité sexuelle avec quelques jours de retard sur la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie avec des reportages du Nouveau-Brunswick et du Québec.
Et je suis une personne non-binaire de genre fluide, transmasculine, pansexuelle, homoromantique et j'utilise les pronoms « yel ».
Le 24e Festival du cinéma de l'Outaouais dévoile sa programmation. Plus de 80 films y prennent l'affiche dès le début juin.
Moi, je crois que c'est un moment privilégié où on peut aller à la découverte des gens de différents pays, mais aussi, comment dire, c'est un moment de bonheur qu'on se donne à soi.
La sénatrice manitobaine Patricia Beauvais prend sa retraite, mais laisse derrière elle les traces de son affection profonde pour les arts, la culture et ses artistes.
Tout le temps, je travaille pour les artistes et le monde créatif au Canada parce que je pense que les artistes sont l'âme de notre place.
Et les 38e Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse de Pomquet ont pris fin le week-end dernier. Près de 850 personnes répondent présents en français.
C'est pas vraiment le résultat qui était important. J'ai dit ceci à deux de mes équipes qui ont perdu en finale dimanche matin. C'est les liens qu'ils ont tissés, c'est les expériences qu'ils ont vécues, c'est les mémoires inoubliables qu'ils auraient eues pendant la semaine que j'espère qu'ils restent avec eux pour des années à venir.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bienvenue à Point de vue. Merci d'être là, ça fait plaisir. Alors, on lance l'émission en rattrapant le temps perdu alors qu'on soulignait le 17 mai dernier la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et il n'est jamais trop tard pour donner la parole aux personnes qui souhaitent partager leurs connaissances de la communauté 2ELGBTQIA+, où on apprend davantage sur l'identité de genre et se mettre à la page. Quelques dizaines de citoyens de la région de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, se sont justement ouverts à cet exercice que leur présentait la bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin, qui recevait Pascal E, Joël Fortin d'Aigle, qui se présente comme une personne non-binaire, de genre fluide, transmasculine, pansexuelle, homo-romantique, et qui utilise le pronom « iel ». Je ne suis, dit Pascal, pas inclusivement homme ni inclusivement femme. Je ne me considère pas non plus lesbienne, même si je suis mariée à une femme, dit iel. Vous êtes perdu, il ne faut pas s'en faire. L'important est d'écouter le premier de deux reportages sur la question, celui-ci avec Maxime Gauthier qui, du Nouveau-Brunswick, éclaire notre lanterne en compagnie de Pascal Joël Fortin d'Aigle.
Depuis que j'ai découvert qui je suis comme personne, je peux utiliser les recherches que j'ai faites pour apprendre aux autres à avoir moins de préjugés, à démystifier les choses. C'est ce que ma conférence comme telle s'appelle « Apprendre à se comprendre, démystifier les concepts d'orientation, d'identité, de genre et de sexe ». Mais c'est vraiment ça le but, tu sais, c'est de dire « On n'a pas eu l'éducation à la base sur ce que c'est. Les choses sont en train de changer. Voici comment aider dans la société, tu sais, à en apprendre davantage puis à accepter ces personnes-là qui divergent, dans le fond, de ce qui est dans la norme, entre guillemets, bien entendu.
L'identification de genre est l'expérience intérieure et personnelle que chaque personne a de son genre. Pour Pascal, ça va beaucoup plus loin que simplement être un homme ou une femme.
Dans la société, on s'est fait donner des directives. Il y a deux boîtes, t'es homme ou t'es femme. Puis il y a une série de caractéristiques qui vient avec le fait que t'as été attribué homme ou femme à la naissance. Puis pour arriver dans la société, à être reconnu, il faut que tu coches ces caractéristiques-là. Tu sais, il faut que tu aies ta checklist, puis tu juste, OK, pour être un homme, j'ai besoin de ça, 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 ça. Pour être une femme, même affaire, j'ai besoin de ça, 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 ça. Mais l'identité de genre est beaucoup plus large que simplement ces deux boîtes-là. Tu sais, en fait, dans la nature, il n'y a rien qui est à deux options. La seule endroit où tu as deux options, c'est quand on parle de binarité, puis ça, c'est un terme en ordinateur, puis je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça peut être complexe. Mais l'identité de genre, c'est de comprendre que le genre est un spectre, puis que ça va au-delà de ces boîtes-là. C'est comme si t'es dans un magasin, puis t'as deux boîtes en face de toi, puis là t'ouvres la porte, puis l'entrepôt est plein de boîtes. Mais cette porte-là a été fermée pour très longtemps à la société. Et là, on commence, on a trouvé la clé, avec une petite broche, on a essayé de l'ouvrir, puis là, hop, on voit qu'il y a plus de boîtes, t'sais.
On a demandé à Pascale où est-ce qu'elle se situe à l'intérieur de ses lettres, de son identité. Voici ce qu'elle répond.
Je suis une personne non-binaire, de genre fluide, transmasculine, pansexuelle, homoromantique, et j'utilise les pronoms « yel ». Non-binaire rentre dans la catégorie identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est comment une personne se sent. Donc, on va dire, c'est soit un homme, une femme, donc la binarité, l'option entre les deux. Non-binaire, c'est quand tu tombes pas dans ces deux boîtes-là. Fait que c'est tout le reste du spectre des genres. De genre fluide, c'est que je vais me promener dans ce spectre-là, entre les boîtes, entre les... Je vais prendre des coins, je vais aller faire des cercles, je vais faire des ronds, left and right. Mais c'est ça, c'est fluide, c'est un liquide, c'est fluide, ça bouge. Transmasculine, c'est plus au niveau de mon expression de genre. Donc, c'est comment je veux que les gens me perçoivent. Donc, je vais m'habiller plus avec des vêtements catégorisés typiquement masculins ou de manière androgyne. Mais j'ai aussi une relation avec mon corps qui est beaucoup plus masculine. Je suis née femme à la naissance. Quelques années passées, j'ai commencé à prendre des démarches pour voir si j'aimais ça, ne pas avoir de poitrine. J'ai porté un binder. Et là, j'ai été pour l'opération de la chirurgie de masculinisation du torse. Donc, mon corps n'est pas entièrement féminin, n'est pas entièrement masculin non plus, donc d'où le terme trans. Les deux derniers, c'est au niveau de l'orientation sexuelle et de l'attirance romantique. Donc, une orientation sexuelle, c'est ce qui est probablement le terme que tout le monde connaît le plus. C'est comment est-ce que tu te sens ton attirance envers une autre personne dans ton intimité. Pan veut dire... toutes. Si on le garde short and sweet, ça veut juste dire que pour moi, la coquille externe, ça compte pas plus que ça. C'est ce qui est en dedans qui compte. Puis homo-romantique, mais comme j'ai dit, je nie pas que mon sexe assigné à la naissance était femme. Donc, ma relation romantique est plus avec les femmes. Donc, j'ai plus de facilité à créer des connexions pour comme créer une bulle, une famille, vraiment avoir cette relation-là, cet aspect relationnel-là avec des personnes qui sont typiquement du même sexe.
Depuis l'année dernière, on a ajouté les acronymes 2E et IA. Pascale nous explique ce que ces ajouts signifient.
2E signifie deux esprits. Donc, essentiellement, ce terme-là est strictement utilisé pour les peuples autochtones, donc soit les Premières Nations, Métis, Inuit. Dans ces peuples-là, la personne deux esprits, c'est qu'elle a à l'intérieur d'elle l'esprit masculin et l'esprit féminin, donc a accès aux qualités des deux. Puis souvent, dans la culture, sont vus comme étant des personnes de grande sagesse. Donc le IA, le I représente intersexe. Donc ça, c'est une personne qui est née avec des caractéristiques souvent génitales des deux sexes qu'on attribuerait soit au sexe masculin ou au sexe féminin. Donc puis ces personnes-là, c'est quand même un petit pourcentage de la population, c'est 0,4% de la population, mais si on prend sur le 8 billions de personnes qu'on est sur la planète, ça fait quand même beaucoup de personnes. Puis le A, c'est asexuel ou agenre. Si on remonte au cours de français 9e année, le A signifie sans. Donc, une personne asexuelle va pas avoir de désir sexuel, va pas nécessairement vouloir avoir des relations intimes. Une personne à genre va pas nécessairement s'identifier à aucun genre. Donc, il y a pas de caractéristiques plus que ça. Puis, l'inclusion de ces trois sphères-là, si tu veux, à l'acronyme, c'est surtout question de représentativité. Puis de dire « oui, on est là, on existe ».
Pascale Joël Fortin-Daigle, qui a donné généreusement de son temps pour les citoyens de Saint-Quentin, les pronoms qu'on lui attribue lorsqu'on l'interpelle lui apparaissent sans importance, mais pour d'autres, il peut être délicat d'utiliser le mauvais pronom.
Les pronoms, c'est ce qui te représente. C'est un reflet de ta personne. Autant qu'on va utiliser ton nom, tu sais, Pascale, pour référer à ma personne, autant que l'utilisation d'un pronom va intrinsèquement être lié à comment les gens m'identifient. Et si le pronom que les gens utilisent ne reflète pas comment moi je me sens à l'intérieur, ça peut créer de la peine. La nature de l'utilisation du pronom réfère à l'identité directe de la personne. Fait que tu sais, quand ce que tu dis « il », tu le sais que tu parles d'un gars. Si tu dis « elle », tu vas parler d'une fille. Mais si en dedans, tu te sens pas comme ça, puis que quelqu'un te répète constamment des mois, des années, ça vient lourd. T'sais, on dit des pronoms left and right comme ça parce qu'on les apprend, puis ça veut rien dire vraiment, mais ça veut dire de quoi, dans le fond, tu sais.
Au niveau de son identité, Pascal se considère simplement comme étant une personne. Toutes ses lettres, ses acronymes, cette façon de catégoriser les genres est surtout une question de représentativité.
Je pense que c'est le besoin de l'humain d'appartenir à quelque chose. Puis de se dire, tu sais, comme moi, je fais partie de cette communauté-là, j'ai des gens qui me ressemblent, des gens qui comprennent ma réalité, qui l'ont vécu. Ça fait que c'est tout au niveau de l'appartenance. Tu sais, moi, c'est ça, je t'ai dit mes 5 lettres, mais de façon générale, dans la vie, je dis juste comme « Salut, moi, je suis Pascal, je suis une personne. » Puis ça donne que j'ai marié une femme. Ça donne que j'aime pas mes seins. Ça donne que j'ai une top shirt. Tu sais, comme, ça donne que parce que ça fait partie de qui ce que je suis. Mais essentiellement, je suis Pascal, puis ça s'arrête là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a ce besoin d'appartenance-là, puis de... Quand est-ce que tu t'arrêtes une lettre dans cet alphabet queer-là, tu fais comme... OK, wow, je suis pas tout seul à me sentir de même.
Maxime Gauthier, journaliste IGN.
Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, la diversité sexuelle était aussi à l'honneur au Musée de la civilisation de Québec qui présente jusqu'en avril 2024 l'exposition unique en son genre. Le Musée de la civilisation de Québec qui a fait appel à l'expertise de 2 comités, un scientifique et un consultatif pour l'appuyer dans sa réflexion et dans l'élaboration des contenus de cette expo. Unique en son genre permet au public d'explorer la pluralité des expériences liées au genre dans la société québécoise et ailleurs. L'exposition se décline en plusieurs parcours où le visiteur peut autant plonger au cœur de l'histoire des personnes trans dans la province, mais aussi dans les subtilités sexuelles du règne animal. La ministre québécoise de la lutte à l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, était présente au vernissage de l'expo. Elle en a profité pour dévoiler un nouveau prix dédié aux personnes qui se démarquent par leur soutien à la communauté LGBTQ+, dans la province. Elle qui a profité du même coup de cet événement pour dénoncer le fait que les discours haineux, barbares et arriérés sont encore bien présents au Québec, dit-elle. Notre journaliste Steve Carignan était sur place. Il nous fait entendre Marie-Philippe Philly-Drouin, responsable de la scénarisation de l'exposition, et la conservatrice Valérie Bouchard.
On se rend compte que les enjeux de genre, c'est des enjeux qui sont très, très actuels, qui sont réfléchis, qui sont débattus dans l'espace public, mais qu'il y a beaucoup de confusion autour des différentes dimensions qui sont liées au genre et que ça crée des préjugés, des stéréotypes, des biais, voire même des controverses qui suscitent de la haine, de la peur, des craintes en société.
Mais quand on prend le temps de vraiment observer la biologie, on se rend compte que les rôles sexués dans la nature sont vraiment plus variés, plus diversifiés que ça. Donc, chez les phalaropes, par exemple, ce sont les mâles qui vont s'occuper du soin aux petits, alors que les femelles, elles quittent le nid au moment où elles ont pondu les œufs.
L'histoire des personnes trans au Québec, bien qu'il y a des personnes qui transgressent ces normes-là depuis que le monde est monde, le mouvement commence à se créer dans les années 60-70, dans le milieu du cabaret. C'était un des seuls espaces, parce que c'était des espaces de divertissement, où ce que les personnes trans, entre autres, pouvaient aller explorer les accessoires, le maquillage, les vêtements dits du sexe opposé, et que c'était pas mal vu, parce que dans le monde du divertissement, c'était une façon de faire rire, d'amuser les foules, alors que dans le quotidien, c'était vu comme un péché, un crime ou une maladie mentale.
Marie-Philippe Drouin et Valérie Bouchard au Musée de la civilisation de Québec.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Restons dans les arts et transportons-nous à la jonction de 2 provinces où l'on dévoilait la programmation du 24e Festival du film de l'Outaouais, le festival qui prendra ses aises du 1er au 9 juin prochain, principalement au Cinéma 9 de Gatineau. Près de 80 films provenant d'une trentaine de pays y prennent l'affiche. Cette 24e édition qui accueille à sa présidence d'honneur la chanteuse québécoise Ginette Renaud. Madame Renaud, qui a aussi été comédienne, assistera à la présentation spéciale musicale du film Léolo, dans laquelle elle a joué, un film produit par le regretté réalisateur québécois Jean-Claude Lauzon. Cette année, l'Argentine occupera une place de choix au festival. Les précisions de notre journaliste Marie Hillès.
Denise Marlow participe depuis des années au Festival du film de l'Outaouais. Elle est membre du jury.
Moi, je crois que c'est un moment privilégié où on peut justement aller à la découverte des gens de différents pays, mais aussi, comment dire, c'est un moment de bonheur qu'on se donne à soi. Le film m'a ouvert à l'univers, au monde. Souvent, j'ai eu l'occasion de voir des films aussi de d'autres pays. J'ai l'impression d'être allée faire un long voyage qui m'a amenée à avoir des moments de bonheur, des moments de tristesse et de vivre aussi toutes sortes d'émotions. Mais c'est ça, pour moi, c'est un voyage, le cinéma.
Philippe Boilly est réalisateur, scénariste, monteur en production vidéo à la firme Pixel. Il est un nouveau membre du conseil d'administration du Festival du film de l'Outaouais.
Le festival existe depuis longtemps. En même temps, je pense qu'au niveau de la jeunesse, on a un petit travail à faire pour s'assurer de la pérennité à long terme du festival. Donc, moi, c'est certain qu'avec mon expertise en réalisation, en communication aussi, je pense que j'espère pouvoir aller chercher un public un peu plus jeune puis pouvoir aider le conseil d'administration à amener une vision un petit peu plus jeune aussi.
Et d'où est venue cette passion pour les films?
Depuis mon tout jeune âge, je savais même pas que j'allais faire ça dans la vie. Je me souviens, jusqu'aux petites heures du matin, moi et mes amis, on se rassemblait puis on pensait à des scénarios de films, des films d'horreur, des films de comédie. Puis on dirait que ça a toujours fait partie de mon quotidien. Il y a rien qui fait vivre une émotion, je pense, comme écouter un film, parce qu'on est en toute vulnérabilité. Puis je pense que c'est la beauté du cinéma.
Louise Mercier est passionnée de films. Elle est heureuse de faire encore partie du jury. Et elle souligne l'importance du festival dans la région.
Ça nous donne des coups de cœur pour des personnages auxquels on s'attache énormément. En tout cas, moi, je m'attache aux personnages des films. Naturellement, on découvre des cinéastes, on vit des histoires, on rencontre des collègues. Vous savez, le Festival de films de l'Outaouais, c'est un des événements rassembleurs de la région. On y côtoie tous nos amis, nos collègues, les passionnés de films, et c'est un événement qu'on attend d'année en année. Alors, je suis bien heureuse de faire partie de cette belle famille du FFO maintenant, et j'invite les amis, on vit de magnifiques moments.
Le festival présente cette année plus de 80 projections, dont 38 films québécois, le pays mis à l'honneur et l'Argentine. Rappelons que la présidente d'honneur de la 24e édition du Festival du film de l'Outaouais est la chanteuse comédienne Ginette Renaud. C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
La sénatrice manitobaine Patricia Beauvais prend sa retraite et met un terme à une carrière politique marquée par son dévouement pour les affaires étrangères, les questions environnementales et surtout envers les arts. Madame Beauvais assure avoir défendu les intérêts des Canadiens en se faisant notamment la championne de la préservation des arts et de la culture au Canada. La sénatrice Beauvais a siégé au Sénat pendant 7 ans. Elle se dit reconnaissante de l'occasion qui lui a été offerte de participer à quelque chose de plus grand qu'elle et d'avoir eu un impact manifeste sur une foule de domaines. Au moment où la sénatrice entame donc le prochain chapitre de son parcours, elle laisse derrière elle un riche héritage. Fraîchement retraitée, Patricia Beauvais nous rappelle l'importance du service public et l'impact durable qu'il peut avoir sur notre société. Elle est au micro de notre journaliste Iman El-Hadji.
Je pense que le rôle de sénatrice est un rôle très important en beaucoup de façons. Tout le temps, je travaille pour les artistes et le monde créatif au Canada parce que je pense que les artistes et les arts sont l'âme de notre place, l'âme de nous-mêmes. Et je pense que j'ai fait les étapes.
Tout au long de votre mandat au Sénat, quels ont été les problèmes ou les défis les plus urgents auxquels vous avez été confrontés et comment les avez-vous abordés?
C'est une institution complexe. Le plus important
problèmes et que nous avons besoin d'autres sénateurs et sénatrices. Nous manque, je pense, 17 personnes maintenant. Et c'est beaucoup pour le travail que nous avons. Pour moi, parce que j'ai travaillé pour les artistes et avec les artistes, je suis la première personne qui est une historienne de l'art et la première muséologiste dans l'histoire du Canada au Sénat. Si toutes les choses que j'ai faites, les expositions dans le Sénat, les choses, l'œuvre d'art parmi Canada qui nous avons présentées au Sénat, c'était nouveau. Et avec les choses nouvelles, c'est très, comment dire, les défis étaient, pour moi, constructifs. Il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées avec pendant mes années au Sénat que je continuerai. Peut-être les choses de droit d'exposition pour les artistes. Et aussi, je veux travailler avec les choses de climat. Les problèmes de climat, je pense que les artistes et les penseurs créatifs sont très importants pour donner, pour parler les solutions. Les artistes et les personnes créatives ne sont pas à la table maintenant.
Comment pensez-vous que votre expérience en tant que sénatrice du Manitoba a contribué à la représentation et à la voix de la province dans la politique fédérale?
J'espère que j'ai fait quelque chose pour les Manitobaines. Je pense que j'ai mis les voix des Manitobaines sur la table pour beaucoup de causes. J'ai nommé quelques Manitobaines donner les témoignages au comité et j'ai consulté avec beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes de beaucoup de parties de la vie. J'espère que j'ai donné leur voix positivement aux collines du Parlement.
Bonjour, ici Julie Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
L'Acadie de la Nouvelle-Écosse s'était donné rendez-vous aux 38e Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse de Pamquet du 19 au 21 mai dernier. Près de 750 athlètes et une centaine d'accompagnateurs venus de 11 régions étaient présents. Des gens qui sont venus de Chéticamp, Sydney, Richmond, Pamquet, Truro, Dartmouth, Halifax, Rive-Sud, Greenwood, Paramba et Clare. Les équipes gagnantes participeront à la 42e finale des Jeux de l'Acadie qui aura lieu dans la municipalité de Memramcook au Nouveau-Brunswick du 28 juin au 2 juillet prochain. Les Jeux qui ont pour véritable mission, écrivent les organisateurs, de valoriser et de promouvoir la culture et la langue acadienne et francophone auprès de la jeunesse acadienne de la Nouvelle-Écosse. Daniel Aucoin en parle avec Travis Landry, président du comité organisateur des Jeux régionaux 2023.
Travis, comment on se sent après cette fat semaine des Jeux qui a réuni l'Acadie de la Nouvelle-Écosse chez vous à Pamquet?
Ben, ça a été un énorme succès. On était très contents de revoir tout le monde, de regrouper comme on le faisait dans le passé. Depuis la pandémie, on a dû changer un peu le format des Jeux de l'Acadie. Donc, c'était vraiment le fun de revoir tout le monde, en suivre la routine normale.
Si je te demande de choisir quelques moments favoris des Jeux régionaux 2023 pour toi, ce serait quoi certains de tes bons moments en fin de semaine?
Un parmi eux était notre artiste qui a participé à La Voix, qui a fait une belle chanson qui m'a vraiment fait pleurer. C'était une chanson très émotionnelle et elle était toute seule sur l'estrade. Elle a fait une jolie scène. Donc pour moi, c'était un des moments préférés. Aussi, vraiment, juste voir tout le monde en train d'avoir du plaisir aux cérémonies, sur le champ, même dans les chambres la nuit. Comme c'était vraiment fun pour moi de revoir tout le monde se regrouper et partager des moments entre amis et que ça tout soit fait en français était encore meilleur pour moi.
Travis, tu t'es mérité le prix bénévole de l'année 2023 lors de la cérémonie clôture des Jeux régionaux dimanche. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le prix bénévole de l'année?
Pour moi, c'était un énorme honneur d'être reconnu pour ce prix-là. Surtout le fait que c'était mon ami Candice Uden qui me l'a présenté, qui a fait le discours pour moi. Ça a été un long 3 ans J'avais une excellente équipe, mais d'être reconnu pour ce prix-là, c'était vraiment émouvant pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça et c'était un honneur.
J'imagine que tu dois être pas mal fier de ta communauté qui a appuyé pendant plusieurs années l'organisation et toute la fin de semaine, le déroulement des Jeux de l'Acadie. La communauté a été au rendez-vous?
Oui, je suis très fier. Ça a été un long processus. Puis, pour être honnête, par le temps de Noël l'année dernière, on était quand même beaucoup stressés et ça n'a pas l'air que ça a avancé comme qu'on s'attendait, mais depuis ce temps-là, on a des membres qui se sont ajoutés à l'équipe qui ont fait en sorte qu'on a pu réussir, on a pu avoir un énorme succès. Et j'ai beaucoup de gens à remercier parce que, comme tu as mentionné, notre communauté a vraiment steppé up pendant les dernières couples de mois pour assurer que cet événement soit bien organisé. Et c'est grâce à eux que ça a été ce succès-là. Et puis, je suis très reconnaissant de tous les bénévoles, tous les membres de la communauté qui ont pu m'aider.
Comment important qu'a été le rôle des accompagnateurs, les bénévoles qui encadrent les 11 délégations de la Nouvelle-Écosse aux Jeux régionaux?
Ben, sans eux, ça ne sera pas possible pour que ces athlètes vivent de telles expériences. Pour moi, les Jeux de l'Acadie, c'est ça. C'est vraiment une chance pour, aux jeunes de participer des sports et des activités qu'ils aiment avec leurs amis et rencontrer plein d'autres mondes. Et c'est grâce aux accompagnateurs, aux bénévoles, aux coachs qui accompagnent ces jeunes-là que c'est possible. C'est pour cette raison que je continue à m'impliquer aux Jeux de l'Acadie, parce que moi, comme athlète, j'ai eu cette chance-là, puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont assuré que j'avais ces opportunités-là. Donc, pour moi, de pouvoir retourner cette chance-là à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est la beauté des Jeux de l'Acadie.
Qu'est-ce que toi, tu souhaites que les jeunes Acadiens et francophones de partout en Nouvelle-Écosse vont retenir de la fin de semaine à Pumpkin?
C'est pas vraiment le résultat qui était important. Puis j'ai dit ceci à deux de mes équipes qui ont perdu en finale dimanche matin. Ce n'est pas le résultat final de la compétition qui compte. C'est les liens qu'ils ont tissés, c'est les expériences qu'ils ont vécues, c'est les mémoires inoubliables qu'ils auront eues pendant la fin de semaine que j'espère qu'ils restent avec eux pour des années à venir.
On peut dire que tous les athlètes sont gagnants aux Jeux de l'Acadie?
C'est ça, exactement. J'ai vu ça dans leur sourire toute la fin de semaine, dans leur énergie. Mike Calloway était là, puis il a mentionné le fait que même dimanche matin, après trois jours, il y avait quand même une énergie qui envahissait la scène, la foule. Donc, pour moi, ça c'est la beauté.
Alors, Travis Landry, président du comité organisateur des 38e Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous.
Merci, Daniel.
Et c'est là-dessus que prend fin cette édition de Point de vue. Nos journalistes cette semaine sont Maxime Gauthier, Daniel Aucoin, Marie Hillesse, Steve Carignan et Iman Alagi, coordonnateur national Stéphane Bénard. L'émission Point de vue est produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Merci à elle et à vous de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao!
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.